Donc après, on va remuer la purée du fond. Et puis, ma coach me disait, c'est la boue. Elle avait parlé d'une jarre avec la boue, puis la jarre est fissurée, puis il faut remettre ça en ordre. Puis la boue, il y en a beaucoup, en tout cas chez moi. Donc ça dure.
Vacarme. Avons-nous tous besoin d'un coach? Marc Hughes, Véronique Marty. Bonjour à tous. Chaque dernier samedi du mois, la brasserie des Halles de Lille à Genève accueille les samedis du coaching, une plateforme de rencontre où coachs et clients potentiels peuvent se rencontrer et décider d'un suivi si affinité. Organisée depuis 3 ans, ces rendez-vous gratuits visent à démocratiser une pratique qui se développe rapidement mais reste encore un peu élitaire. Le coaching décrit comme un accompagnement au changement. Rendez-vous donc aux Halles de Lille, à Genève, en compagnie de Fabienne Revillard, coach, formatrice, business consultante et organisatrice de ces samedis particuliers. Voici au marché des coachs, un reportage de Nathalie Boujard, réalisé par Christian Morero.
J'ai des petits mini flyers de 5 cm de côté sur les samedis du coaching que les personnes peuvent emporter avec un petit sujet à chaque fois.
C'est décidé, j'améliore ma situation professionnelle.
Par exemple.
C'est décidé, j'améliore ma vie amoureuse, mes amours. Ça, c'est un autre thème.
Et le planning de toutes les personnes qui ont rendez-vous aujourd'hui.
Voilà, il reste encore quelques places de libre, 3 je crois.
Un petit peu de place de libre.
Donc on pourra inscrire quelques personnes. Bonjour. Oui, ça va et vous? Vous êtes un tout petit peu en avance ou vous êtes à l'heure? Ah non, à 3 minutes près, dites donc. Ok, alors vous avez rendez-vous avec... Ah bah avec Thierry. Voilà.
Je suis là.
Thierry, c'est à toi.
Alors, voilà.
Alors, l'idée des samedis du coaching, c'est de permettre à tout un chacun d'avoir un contact avec un coach. L'idée, c'est aussi de pouvoir donner une réelle idée de ce que c'est le coaching, donc de manière, ce que moi j'appelle sérieuse. En général, bon, c'est les coachs qui me contactent pour pouvoir participer au samedi du coaching. Et puis, je vais vérifier qu'ils ont un diplôme de coach qui a demandé un certain travail pris sur une année, avec un travail de diplôme à la fin, avec un mémoire, avec une obligation d'avoir suivi en pratique des personnes, d'avoir pu faire des comptes rendus, d'avoir pu être supervisé par rapport à ça. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, la profession n'est pas réglementée, donc pas tous les diplômes de coach demandent ça. Et puis, je vais vérifier le sujet, c'est-à-dire sur quoi est-ce que le coach a envie de s'axer. Bon, en général, c'est des sujets qui rentrent dans le cadre des samedis du coaching, typiquement la séduction, la réorientation professionnelle, la recherche d'emploi, le management, le leadership, la gestion du stress, la performance, le bien-être, le coaching sportif aussi. Moi, j'ai eu deux fois des coachs sportifs qui sont venus, qui emmenaient les gens faire du sport. C'était assez marrant. J'ai eu d'autres propositions de thèmes, typiquement... du coaching spirituel, du coaching en lien avec, par exemple, le chamanisme ou des choses comme ça, qui, pour moi, ne rentrent pas dans le cadre des samedis du coaching.
Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi, là, vous mettez une frontière ?
Oui, parce que j'ai pas envie qu'on puisse être associé de près ou de loin avec n'importe quoi qui pourrait être associé à des idées de secte ou de choses comme ça. Dans toute relation d'aide, que ce soit avec les coachs, mais avec des psychologues, avec des thérapeutes, il y a toujours un risque de dérapage, c'est-à-dire d'une emprise du thérapeute sur le client ou le patient, selon comment on l'appelle. Ça dépend de l'éthique du thérapeute en question. Après, dans certains thèmes, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de risque que d'autres. Donc, évidemment, dans une relation d'aide... La personne qui vient et qui se dévoile, se met un petit peu à nu, quelque part, évoque souvent des difficultés, parce que sinon, elle n'aurait pas besoin de venir. Donc, le phénomène d'emprise est facilité si vous avez quelqu'un en face de vous qui n'a pas forcément une éthique derrière. Alors voilà.
Et dans quel thème c'est plus risqué pour vous ?
Je pense que ce n'est pas une histoire de thème. Je pense que c'est une histoire du professionnel qu'on a en face de soi. Et donc, à ce niveau-là, en général, moi, je conseille aux personnes d'observer la personne en face de soi, de regarder un petit peu comment on se sent, est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas, et puis de voir si la personne essaye d'influencer, si la personne essaye d'insister pour se revoir, pour définir plein de séances et demander un engagement à venir, etc. Pour moi, là, parfois, ça peut être un petit peu plus délicat. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que tout au long d'un processus d'accompagnement, avec un coach, mais avec n'importe quel autre thérapeute, c'est bien de pouvoir se dire qu'on a complètement le choix de venir ou pas, de toujours se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que... Voilà. Et puis surtout, de ne pas hésiter à arrêter si la réponse est non.
Mais vous, ça vous pose problème? Du coup, ce serait plus simple, à votre avis, le coaching, si il y avait justement finalement une définition, une formation homologuée, un diplôme qui rendrait les choses peut-être un peu plus claires?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, le coaching, pour le moment, c'est quand même une profession qui est nouvelle, hein, qui est en train de monter comme ça, qui n'est pas réglementée. Ça a apparu aux États-Unis dans les années 70, je crois. Puis ça s'est étendu comme ça. D'abord, c'était du coaching sportif. Ensuite, il y a eu du coaching au niveau des stars, des politiciens. Puis bon, maintenant, on assiste à une démocratisation du coaching. Mais c'est vrai que si c'était réglementé, s'il y avait, par exemple, une formation à l'université qui définit la profession de coach, à mon avis, ce serait beaucoup plus simple. Maintenant, je mets quand même un bémol à ce niveau-là. C'est pas parce qu'il y a une réglementation que ça empêche d'avoir des professionnels qui n'ont pas d'éthique, hein. On est bien d'accord. Donc...
Alors, avec vous avez rendez-vous avec qui ?
Fabien, je sais pas.
Thierry Niclou ?
Peut-être.
D'accord.
Malheureusement, pas dit son nom.
Oui, alors ça doit être Thierry Niclou. Très bien.
Donc là, vous attendez votre tour, en fait. Hein. Vous êtes arrivé avec un peu d'avance, on vous a entendu juste avant.
Oui, oui, c'est ça.
C'est la première fois que vous venez ici ?
Oui, c'est la première fois. J'en ai entendu parler relativement récemment. Là, c'est par une amie qui fait une recherche d'emploi et donc qui a été dans ce système de coaching aussi, qui a eu un entretien qui lui a permis de décrocher, d'ailleurs, un boulot.
Du coup, ça vous a encouragé ?
Voilà, exactement.
Vous en attendez quoi, en fait, de ce coaching ?
Alors moi j'ai un entretien qui se profile là pour le mardi prochain, donc préparez un peu cet entretien.
Ça va vous rassurer, vous pensez ?
Je pense, oui, de toute façon les coachings ne sont pas là pour inquiéter les gens, je pense. Enfin les coachs ne sont pas là pour inquiéter les gens. Donc ça peut qu'être positif dans tous les cas.
C'est dur à faire comme démarche ou pas ? De se dire je vais aller voir quelqu'un pour qu'il m'aide à préparer un entretien ?
Je pense que c'est très utile parce que en fait tout le monde cherche ça en fait d'une manière ou d'une autre sur internet par les conseils sur les blogs tout le monde cherche des conseils pour savoir comment bien préparer son entretien. Donc avoir un coach pour le faire, c'est un peu une mine d'or, on va dire. Pour un chercheur d'emploi.
Souvent les personnes viennent, elles ont déjà une petite idée a priori de ce que c'est que le coaching. Et elles viennent découvrir ça. Et parfois, elles viennent avec un sujet précis. Je veux voir mon CV. Regardez mon CV, s'il vous plaît.
C'est très simple. C'est ce que vous venez d'avoir, là, non ?
Là, le monsieur est venu. Il avait
pour un entretien.
Préparé. Il avait un entretien mardi. Il était un peu inquiet parce qu'il y avait 2-3 points très précis qu'il voulait travailler. Et puis, il est venu avec ces questions-là. Et puis, en fait, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui minutie autant son travail. Bon, ma première question, c'était de lui dire... Est-ce que c'est votre naturel que de préparer autant ce truc-là ? Il me dit non, pas du tout, d'habitude, je suis pas du tout préparé. Alors, je dis, est-ce que vous êtes à l'aise avec cette démarche de tout préparer ? Il me dit, non, pas vraiment, mais enfin, c'est comme ça qu'on doit faire. Alors voilà, on rentre dans une démarche un petit peu plus pour l'inviter ou l'accompagner à être plus dans une démarche authentique qui sera la meilleure solution de réussir son entretien de recrutement. Donc moi, j'ai juste essayé d'ouvrir avec lui l'option d'être lui-même, sans pour autant mettre de côté complètement sa préparation qui le rassure, mais d'être lui-même et de voir un petit peu comment il peut réagir. Parce qu'il va se retrouver en face d'un recruteur ressources humaines. Le recruteur ressources humaines, il ne va pas trop s'inquiéter de l'aspect technique, de savoir si c'est manipulé tel programme informatique. Il va savoir s'il parle de lui. Donc on a évoqué ça, et puis finalement, ça avait l'air de lui dire « Ah bah oui, tiens, pas mal. Il y aurait peut-être quelque chose à faire par là. » Et puis voilà, il part. Puis bon, il a une bonne chance d'y arriver.
Donc là, par exemple, si vous suiviez cette personne, vous essayeriez de savoir d'où ça vient, ce besoin de devoir absolument coller à ce qu'on attend de moi.
Sans doute qu'on essaierait de creuser en quoi c'est important pour lui de coller à un modèle qu'on lui a dit. Est-ce qu'il y a un besoin de trouver une sécurité, d'être rassuré sur quelque chose? Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? On ne va pas dans le pourquoi, on essaie de trouver plutôt un facteur de motivation. Puis une fois qu'on a trouvé ce facteur de motivation-là, ça devient une forme d'objectif qu'on formalise. Après, il y a une décision qui doit être prise par la personne. Oui, je veux aller vers ça.
Vous allez vous activer là alors?
Oui, je vais marcher.
Vous allez marcher? Vous avez pris rendez-vous pour ça?
J'ai pris rendez-vous pour marcher.
Et vous savez où vous allez aller?
Absolument pas.
Non, ça va être la surprise.
Voilà.
C'est la première fois que vous venez ici au samedi du coaching?
Oui, c'est la première fois que j'ai pris un rendez-vous. Sinon, je suis en coaching avec quelqu'un d'autre, oui.
Donc là, vous partez pour une séance de walk and talk avec Samia d'ailleurs. C'est un coaching un peu particulier, non? Il s'agit de parler en marchant, de se reconnecter avec la nature et donc avec sa propre nature. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce type de coaching?
C'est ma coach qui m'a dit que c'était peut-être un autre point de vue.
D'accord.
Déjà, hein. Ce que je trouve drôle, c'est que Aristote, la légende dit qu'il faut des effets en marchant. Donc, voilà. Je me suis dit, tiens, je vais aller philosopher avec quelqu'un sur les pavés ici.
Je peux vous demander sur quoi vous allez philosopher? C'est professionnel, c'est personnel, c'est dans quel domaine?
Alors, aujourd'hui, je suis perdue, j'en sais rien, mais c'est plutôt personnel. En fait, je suis partie sur le coaching parce que j'avais un problème professionnel. Puis après, ça s'est développé sur le... Évidemment, quand on a un problème professionnel, c'est qu'on a un problème personnel.
Forcément?
Je pense, ouais. Donc après, on va remuer la purée du fond. Ma coach me disait, c'est la boue. Elle avait parlé d'une jarre avec la boue, puis la jarre est fissurée, puis il faut remettre ça en ordre. Et puis on remue la boue, puis la boue, il y en a beaucoup, en tout cas chez moi, peut-être pas chez tout le monde. Donc ça dure.
Voilà. Ça fait longtemps que vous faites du coaching? Vous faites coacher?
Ouais, ça fait depuis 2009. Je crois que j'ai besoin d'aide pour me rassurer, en fait, sur moi-même. Donc ça sert à ça. Alors voilà, je vais aller philosopher avec madame, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
Non, pas de problème.
Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Can talk.
Donc là, on est à Genève. Mm-hmm. On longe l'eau.
Oui, on longe le Rhône. On va longer de côté une petite passerelle à côté de l'usine. Et vous verrez, vous êtes suspendu au-dessus de l'eau, ce qui donne un élément de plus. L'eau qui est une impression d'exprimer ses émotions, qui est souvent représenté par l'eau. Donc c'est un peu ce contact, ce va-et-vient entre vous, la nature, entre vous et l'autre, la rencontre qui fait que les barrières, les choses viennent et souvent les gens disent bah, tiens, j'avais envie de parler d'autre chose et c'est autre chose qui surgit, hein, ce qu'il avait envie de se dire à ce moment-là et de s'exprimer. Donc c'est vraiment important.
Mais vous êtes coach, vous, Samia, d'ailleurs ?
Non, je ne suis pas coach, non.
Vous êtes quoi, vous ?
Alors moi, qu'est-ce que je suis ? C'est une grande question métaphysique. Je ne me définis pas par mon activité professionnelle.
Alors vous pratiquez quoi comme profession ?
J'ai une activité de psychologue et puis de consultant pour les entreprises d'autre part. C'est un peu les deux casquettes que je définis.
Et vous avez quoi comme regard sur le coaching et sa généralisation en tant que justement un peu extérieur peut-être ?
Alors j'ai deux regards, je trouve que ça répond à une demande de la société. Le côté très positif du coach, je trouve que c'est quelqu'un qui est dans le tonique, le côté entrepreneurship, le côté objectif, aller de l'avant. Donc il donne à ses clients une énergie comme ça, positive. Et puis l'autre côté que j'observe un peu, c'est le côté, je dirais, de... Ben voilà, mais c'est un peu... aussi dans d'autres professions, mais c'est le côté de se former comme coach en 3 week-ends. Ça me paraît assez dangereux. Donc, qu'est-ce qu'on induit chez l'autre et qu'est-ce qu'on fait remonter ? Et que quand on ne connaît pas le monde de la psyché, c'est pas évident de faire face à certains... Et ça m'inquiète un tout petit peu, je dirais. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est très positif. Parce que c'est une vraie demande des gens qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'avoir une énergie comme ça de l'extérieur, hein, de quelqu'un qui les tire. Et je trouve que à ce niveau-là, c'est très positif.
Parfois, le coaching est assez violemment attaqué et l'argument utilisé par... ces personnes qui voient cette pratique d'un mauvais œil, c'est un certain formatage de la société. Toujours rendre les personnes plus performantes, les formater pour qu'elles répondent aux besoins de l'entreprise, pour qu'elles rentrent dans le moule. Vous en pensez quoi, vous ?
Mais c'est certain, mais c'est de beaucoup de choses, hein. Le normatif... Hein. Et ça, c'est le danger de beaucoup de professions, c'est-à-dire de se demander jusqu'à quel point on donne des outils aux gens pour accepter des situations inacceptables. Et j'anime des ateliers de gestion de stress, hein, et notamment aux adultes, je leur dis, mais c'est pas pour que vous supportiez une situation inacceptable, c'est que vous fassiez face au stress que vous avez actuellement. Mais c'est que vous preniez conscience d'une situation et pour en faire quelque chose. Parce que ça, c'est la dérive, c'est-à-dire d'utiliser des outils pour que les gens puissent supporter encore plus des conditions de travail qui sont, voilà, délétères. Hein. Ça, c'est une vraie question. Je pense pas que c'est juste pour les coachs. C'est un grand danger, ça. Et vous, cette petite demi-heure de...
Bah, c'est vivifiant. Vu le froid, c'est vivifiant.
À 6h du soir, en mois de janvier, hein, c'est vivifiant.
Alors, on est toujours installé dans la verrière de la Brasserie des Halles de Lille à Genève. La nuit commence à tomber, le pianiste, lui, entame sa soirée. Thierry Niclou, les coachs, ça existait déjà par le passé ou c'est une invention de notre siècle ?
Quel était le coach d'il y a 50 ans ? Par exemple, je sais pas, Giscard d'Estaing, s'il y avait un coach ? Ou est-ce que les chefs d'entreprise avaient des coachs ? C'est un terme qui est assez nouveau. Peut-être qu'il n'y avait pas tant besoin que ça de coach à l'époque. Parce qu'il y avait peut-être un environnement social, entrepreneurial, familial, qui était peut-être moins individualiste. Où chacun avait quelqu'un avec qui partager un échange. Peut-être que la notion de coach, On dit qu'elle existe depuis 2000 ans. Ça, c'est... Je pense que c'est du marketing pour les coachs. Pour moi, la notion de coach telle qu'elle est aujourd'hui, elle est assez récente. Elle est liée à une évolution du système du travail, donc j'évolue plus. Mais je pense que le coaching de vie, c'est aussi pareil. Tous ces gens qui vivent seuls aujourd'hui, pourquoi ils vont voir un coach? Parce que quand ils rentrent chez eux, ils ont leur radiateur qui les attend, rien d'autre. Il y a 50 ou 100 ans, c'était pas comme ça. Il y avait la belle-mère qui habitait dans la maison. Il y avait un autre système de vie. On était beaucoup moins seuls. Donc, quel était le coach d'avant? Je ne suis pas certain qu'il y avait vraiment des coachs avant. Ou en tout cas, beaucoup moins. Et s'ils étaient coachs, ils étaient conseillers. Ils donnaient des conseils techniques.
Les curés?
Probablement que la religion était un point très très fort. Très très fort. Les personnes qui venaient se confesser en disant « j'ai trompé ma femme », moi, souvent, on me dit « oui, et puis il faut que je vous dise, j'ai des choses parfois graves. Hein, j'ai un cancer et je le dis pas à mon employeur. Il n'y a que moi qui le sais. » Alors, des fois, c'est des sujets qu'on doit... La confidentialité est absolument primordiale. Et puis, parfois, le coaching aboutit sur une psychothérapie. Je rentre jamais là-dedans. Je pense qu'il y a eu un vide et qu'il y a eu un besoin et que ce besoin, comme on est dans l'humain, la nature ayant horreur du vide, le besoin il a été comblé par quelque chose d'autre, qui sont les coachs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours eu des coachs.
Sommes-nous otages de la performance ou le coaching est-il une réponse simple et saine à nos vies parfois en manque de repères? Votre avis nous intéresse au 058 236 236 0. N'hésitez pas à réagir au reportage de Nathalie Boujard et à nous confier votre expérience en matière de coaching. 058 236 236 0.
Vacarme, Marc Gius, Véronique Marty, Marie Némont, Stéphanie Coudray, Nathalie Boujard, Christian Morero.
Demain, nous verrons comment on peut booster sa vie amoureuse grâce à un love coach.
Pour justement trouver cette féminité et ne pas avoir peur de cette féminité qu'on ne connaît pas, c'est aussi faire des choses qui aujourd'hui ne vous paraissent pas forcément naturelles, mais qui par la suite deviendront naturelles, qui feront partie de vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle?
Un petit peu.
Dans un instant, les décodeurs de Laurence Bizang dans la salle Gérard Carra du théâtre de Carouge avec son directeur Jean Liermier. On se retrouve demain, 11h.
L'homme du 21e siècle vit une période de transformation spectaculaire. Premier témoin de ces changements profonds, le corps cristallise un désir de perfection, voire d'immortalité. Tous les matins, retrouvez Virginie Mater pour une chronique du Journal du Matin qui vous fera part des découvertes médicales et technologiques ainsi que des enjeux sociétaux et philosophiques qui gravitent autour de notre corps. Corpus, c'est tous les matins à 6h42 sur la première et en tout temps sur rtsinfo.ch. Les décodeurs avec Infomaniac Network, hébergement de sites internet.
Au théâtre, les décodeurs cette semaine sur la scène Gérard Carra du théâtre de Carouge où ils sont en représentation depuis lundi et jusqu'à demain. Décodeurs dans leur rôle. Hein.